S'il vous plaît. Non, mais prenez le temps, hein. Plusieurs trucs. D'abord, certains m'ont signalé qu'ils n'avaient pas été en capacité de récupérer les fiches de TD pour les séances 3 et 4 qui ont été distribuées en TD. Je viens d'appeler le service, mais la personne qui s'en occupe n'est pas là aujourd'hui. Donc, ils essayent de voir s'ils peuvent m'en déposer dans l'amphi. Sinon, il faut aller directement dans leur bureau, dans le bâtiment B au rez-de-chaussée, et demander et préciser que, voilà, on en a parlé en amphi, que vous ne les avez pas obtenus. J'espère qu'ils vont pouvoir nous les amener. J'espère qu'ils vont pouvoir nous les amener d'ici la fin du cours, mais je n'ai pas de garantie. Ensuite, une étudiante m'a signalé qu'elle n'avait pas réussi à obtenir les slides sur le groupe WhatsApp. Est-ce que vous pouvez me confirmer que les autres, c'est bon? Qui n'a pas réussi à les avoir? Bon. Alors, si vous pouvez vous rapprocher de madame pour lui transférer, ne serait-ce que par mail, voilà. S'assurer que... Moi, je peux le... Je déconseille de rigoler quand je m'agace, par contre. Juste que madame ne soit pas démunie et que, encore une fois, tout le monde y accède. Je fais avec les moyens du bord, mais il faut qu'on s'assure toutes les semaines que ça fonctionne bien pour tout le monde. Enfin, il y a une nouvelle étudiante qui vient d'arriver, si vous voulez bien lever la main, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, madame au fond. Si ceux qui ont la main sur le groupe WhatsApp veulent bien l'intégrer, lui filer les slides qui ont été envoyés la semaine dernière et les fiches de TD et le plan de cours, si vous pouvez vous rapprocher d'elle à la pause, ce serait parfait. Comme ça, on s'assure que ça fonctionne pour tout le monde. OK. Donc, on en a terminé avec le premier temps de... Chute ! On en a terminé avec le premier temps de vie, en quelque sorte, c'est-à-dire l'apparition de la loi. On a vu à quel moment et pourquoi, qu'est-ce qui justifiait qu'elle devienne, qu'elle entre en vigueur et donc qu'elle devienne contraignante pour tous. On bascule maintenant, et ça va faire l'objet d'un paragraphe 2, sur l'abrogation cette fois-ci. Paragraphe 2, l'abrogation, et là, cette fois-ci, on change de prisme et on passe sur la disparition de la loi. Alors, il y a plusieurs choses à dire ici. La première chose, c'est peut-être de dire que ce n'est pas un automatisme. Toutes les lois ne disparaissent pas. On connaît l'expression métaphorique inscrite dans le marbre de la loi. L'idée, c'est que la loi a la vocation à s'inscrire dans le temps. Inscrit dans le marbre de la loi, c'est ça. Hein. C'est qu'il y a... Alors, c'est de moins en moins vrai aujourd'hui avec l'inflation législative, mais il y a normalement une idée derrière la loi elle-même, la règle de droit des sources instituées elle-même, qui est une espèce de pérennité dans le temps. Voilà. Elle a vocation à durer. Ce qui veut dire... par voie de conséquence, en quelque sorte, que la loi n'a pas vocation à être abrogée nécessairement. Toutes les lois ne sont pas abrogées. Et on a des lois qui s'appliquent encore aujourd'hui, qui sont des lois de 1804. Voilà. Le texte n'a pas bougé d'une virgule, et c'est le même, et on l'applique depuis 1804. Et peut-être que dans l'amphi, dans 100 ans, la règle n'aura pas bougé non plus, et elle sera enseignée de la même manière. Donc le premier truc, paradoxalement, à dire sur l'abrogation, c'est que l'abrogation n'est pas systématique. Toutes les lois ne sont pas abrogées. Voilà. Il y a des lois qui perdurent. Mais elles peuvent l'être. Alors, sauf cas très particulier, la loi ne disparaît pas d'elle-même. Le cas très particulier, c'est, et qui est très rare, hein, mais qu'il faut connaître quand même, c'est le cas de ce qu'on appelle les lois temporaires. Alors, une loi temporaire, comme son nom l'indique, c'est une loi qui, en quelque sorte, là encore, si vous voulez parler de manière imagée, hein, mais qui, en quelque sorte, a une date de mort programmée. C'est-à-dire que dans la loi elle-même, il est prévu, vous avez un article qui dit qu'à telle date, elle arrêtera de s'appliquer. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est temporaire. Par opposition, du coup, aux autres qui n'ont pas forcément vocation à l'être. Pardon. Les lois temporaires, vous les trouvez notamment sur les questions de loi de finances, parfois. vous avez un certain nombre de lois de finances qui sont des lois temporaires. En dehors de cette hypothèse très particulière, la loi ne se fixe pas elle-même de fin. Elle se fixe un début, le cas échéant, on a vu qu'elle pouvait fixer elle-même sa date d'entrée en vigueur, mais elle ne se fixe pas de fin, sauf cas des lois temporaires. Alors, du coup, comment est-ce que ça fonctionne, l'abrogation ? Ça peut être d'abord une abrogation qu'on va appeler l'abrogation express. Sur une abrogation express, vous allez avoir une loi B, donc une loi seconde, hein, qui va dans ses articles, dans l'un de ses articles, préciser expressément, explicitement, que son entrée en vigueur emporte l'abrogation de la loi A. C'est rien, moi. Vous avez une loi de 1970, et puis une nouvelle loi, là, en septembre 2025. Et la loi de septembre 2025, dans un de ses articles, elle vous dit « La loi de 1970 est supprimée, soit dans sa totalité, soit pour certains de ses articles. » Ça, c'est une abrogation expresse. Expressément, le législateur réintervient pour supprimer une loi. Voilà. L'abrogation, elle peut aussi être tacite. Alors, quand on parle d'abrogation tacite, par définition, c'est une abrogation implicite. Là, on est dans une hypothèse où vous avez notre loi B, si on garde notre exemple, notre loi B de 2025, qui ne comporte aucune disposition d'abrogation, contrairement à ce qu'on a vu pour l'abrogation express. Dans ce cas-là de l'abrogation tacite, la loi de 2025 nous dit rien. Mais elle contredit la loi de 1970. Donc il y a deux règles qui coexistent et qui se contredisent entre elles. Encore une fois, c'est différent de ce qu'on a vu dans la hiérarchie des normes avec les contrôles, parce que là, on est sur deux lois. Donc elles sont sur un pied d'égalité, il n'y a pas les contrôles à opérer qu'on a vu précédemment. Deux lois dans le bloc de l'égalité, donc, qui se contredisent, la loi de 2025 qui contredit celle de 70. La Cour de cassation admet l'abrogation tacite s'il y a une incompatibilité, une contradiction entre les deux règles. Vous aurez un arrêt de la Cour de cassation d'avril 1991 dans vos fiches de TD, où vous travaillerez sur l'abrogation tacite. S'il y a une contradiction entre les deux lois, alors la loi nouvelle l'emporte, et on considère que cette loi nouvelle, tacitement, implicitement, avait pour objet d'abroger, de supprimer la loi précédente qui la contredit. Voilà. Ça, c'est les deux grandes hypothèses d'abrogation, abrogation express, abrogation tacite. Il y en a une troisième qu'on a un peu évoquée, notamment quand on a parlé de la coutume contra legem, qui est ce qu'on appelle l'abrogation par désuétude. Jusqu'à relativement récemment, enfin maintenant ça va faire presque 10 ans, mais c'est relativement frais, on avait un grand exemple qui était donné dans tous les amphis, que je vous donne aussi parce que ça me sert aussi à vous démontrer l'inflation législative. On avait une ordonnance de police qui avait été adoptée sous la Révolution en 1799 et qui était relative, c'est le vocabulaire employé à l'époque évidemment, hein, qui était une ordonnance relative au travestissement des femmes. Et cette ordonnance-là, elle conditionnait l'autorisation pour les femmes de porter un pantalon à autorisation médicale. Il fallait un motif médical et l'obtention d'une autorisation préfectorale. Si ça n'était pas le cas, vous étiez sanctionné quand vous étiez femme et que vous portiez un pantalon. Vous avez eu par la suite deux circulaires de 1892 et de 1909 qui ont autorisé les femmes à mettre un pantalon dans certaines hypothèses limitées, notamment, je vous cite le texte de 1892, qui est ce qu'il est, hein, évidemment, notamment quand la femme tient le guidon d'une bicyclette ou les rênes d'un cheval. Ces règles-là, elles n'ont été abrogées qu'en 2013. Je sais que vous êtes jeune, mais donc ça, c'est postérieur à votre naissance, l'abrogation. A priori, ni vous, ni vos mères, ni vos grands-mères, en fait, vu vos dates de naissance à tous, n'ont été sanctionnées pour porter un pantalon.
parce que la société, même si la règle restait en vigueur, la société a développé une coutume contra legem. Vous voyez, quand je vous dis le cours d'intro, il se comprend de manière cyclique et on revient sur des points qu'on a vus pour les éclairer différemment ou davantage. Il y a une coutume contra legem qui s'est développée où la société s'est dit, évidemment, enfin, la question ne se pose pas et donc on n'applique pas la règle. Elle est toujours dans le droit positif, mais on n'applique pas la règle. Jusqu'à une intervention en janvier 2013, je sors un peu de ma zone de neutralité, que j'essaye de m'imposer d'habitude, mais parce que vraiment, ça, c'est le genre de truc qui m'accable un peu. Le ministère du droit des femmes de l'époque, en 2013, a considéré qu'il fallait absolument abroger la règle, que c'était un scandale que ce soit encore dans le droit positif, et donc il fallait prendre une loi d'abrogation pour cette règle-là. L'enjeu de l'égalité homme-femme, c'est pas moi qui vous dirai le contraire, évidemment, il est de première importance. Je suis pas sûre que là, on ait parfaitement bien positionné le curseur. Je ne suis pas sûre que si on interroge les femmes dans cet amphi-là, elles se sentaient particulièrement dévalorisées par l'existence de cette ordonnance et des circulaires qui ont suivi et qui n'étaient plus appliquées. Mais ça fait une loi qui porte son nom et on porte un message politique d'égalité. Vous vous rendez compte, grâce à moi, on a abrogé un texte qu'on n'appliquait plus depuis des dizaines d'années, mais grâce à moi, ce texte-là n'est plus dans le droit positif. Ma félicitation. Voilà, ça change rien. Hein. C'est l'exemple topique d'une loi qui ne sert à rien, si ce n'est alourdir un droit positif qui est déjà monstrueusement large et qui n'a aucune incidence sur le plan du droit. Aucune. Ça n'a rien changé. Mais c'est fait. Voilà. Et tant qu'à faire, effectivement, en plus, c'est porter un message d'égalité. Encore une fois, je ne suis pas absolument convaincue que c'était là qu'il fallait intervenir en priorité quand on veut promouvoir l'égalité homme-femme. Mais de toute évidence, ça a été un point qui a été important pour ce ministère-là. Donc désormais, cette règle-là n'est plus de l'abrogation par désuétude, c'est une abrogation expresse. On a eu un texte en 2013 qui a expressément abrogé ces règles-là. Mais jusqu'en 2013, c'était l'exemple topique d'une abrogation par désuétude. Voilà. La société évolue et se dit, bon, ces règles-là, ça sort. La croyance commune, si on revient à ce qu'on disait sur la coutume, si j'avais posé la question, j'aurais dû le faire en amont d'ailleurs, de savoir pour qui, en 2010, il était interdit à une femme de porter un pantalon, je ne suis pas sûre que j'aurais eu une main levée. Et pourtant, en 2010, la règle, elle était toujours dans le droit positif. Mais la croyance commune considérait déjà depuis des décennies que ça n'était pas du tout une règle applicable. Et que, mesdames, on n'était pas limité au port du pantalon si on avait une bicyclette ou un cheval qui nous attendait en dehors de l'amphi. Voilà. L'abrogation par désuétude, c'est ça. C'est aussi, encore une fois, un exemple, et c'est pas inintéressant sur ce terrain-là, c'est aussi un exemple de ce que je vous dis sur l'inflation législative. Alors là, c'est vraiment un cas d'école, hein, parce qu'on est vraiment dans la définition du « ça sert à 0%, c'est une loi nouvelle qui n'a rien changé du tout, en dehors de considérations politiques où je crois que je suis pas suffisamment équipée intellectuellement pour comprendre l'intérêt ». L'inflation législative, parfois, ça va jusque-là. Mais ça fait plaisir, on a un texte à son nom. On l'a porté nous-mêmes. Ça sert à rien, hein, mais il est là. Et il vient grossir une masse qui est déjà, encore une fois, particulièrement importante. Et derrière, on se retrouve face à de l'inflation législative, et c'est comme ça. Oui ? Si vous êtes sur de l'abrogation express. Sinon, c'est de l'abrogation tacite. Vous allez avoir une loi seconde qui est en contradiction et dans ce cas-là, tacitement, elle aura abrogé l'antérieure. Ou dans l'hypothèse où on est là, vous avez aussi l'hypothèse de l'abrogation par désuétude. La loi se maintient, mais la société fait différemment et en fait, on ne sanctionne plus. Voilà donc pour les hypothèses d'abrogation et voilà donc, on en termine avec les questions de
entre guillemets, encore une fois, de vie et de mort de la loi. On en arrive du coup à la question la plus... Soufflez, vous inquiétez pas. Ah, attendez, parce que j'ai un mail pour les fiches de TD. Tout a été fait et déjà distribué pour certains. Il restait pour deux groupes. Les fiches seront distribuées demain avant la séance. Est-ce qu'il y a des groupes où ça n'a pas été distribué, qui ont eu la... Vous étiez en TD avec qui ? Monsieur ? J'entends pas. D'accord. Je regarde. Hein. Je suis désolée, je fais un... une parenthèse, mais on va pas s'en sortir, en fait, si on... Monsieur Boile, vous m'avez dit ? Il n'y a que les, le groupe de Monsieur Boile qui n'a pas eu ? Bon, attendez, vous savez quoi ? Je suis désolée. Vous pouvez parler entre vous deux minutes. Je réponds juste parce que je vais oublier sinon. Madame Alfort, Monsieur Boile, c'est tout ? Et c'est les TD de quand ? Tous les deux ? Ben, vendredi, vous allez les avoir là. C'est ceux qui sont déjà passés. Lundi. Une seconde, parce qu'on me parle en haut de l'amphi, j'entends rien. Ok, d'accord. Donc, les TD du lundi pour Madame Alfort, Monsieur Boile. Discutez entre vous, je fais un mail deux secondes.
Madame Alfort, mais c'est le vendredi. Elle nous a pas distribué le vendredi dernier, Madame Alfort.
Donc, c'est juste Monsieur Boile. C'est pas longtemps. Bon, donc on attend un retour. Allez. Ok, donc ça nous amène, je vous disais, au... Ouais, sans doute à la question la plus technique du cours. On respire, on va faire des schémas et tout va bien se passer. Donc, ça fait l'objet d'une section 2, l'application de la loi dans le temps. C'est le cauchemar de 80% des étudiants en première année. Ça va aller. Si ça devient hyper compliqué, vous m'arrêtez, je recommence. Encore une fois, mon job, c'est de faire en sorte que vous ayez compris, pas de monologuer pendant 3 heures et de rentrer chez moi comme si vous n'existiez pas. Donc, si c'est incompréhensible, on s'arrête, on reprend. On va le faire aujourd'hui, vous le bossez un peu, vous le reprenez chez vous. La semaine prochaine, si vous vous rendez compte que vous n'avez rien compris, je reviens dessus. Voilà. C'est... Encore une fois, je suis susceptible sur plein de trucs, pas là-dessus. Ça m'arrive de ne pas être clair, c'est pas grave, hein, je travaille dessus aussi. S'il faut que je reprenne, je reprends. À ce stade-là, la loi est entrée en vigueur. Ce qui va nous intéresser en fait ici, c'est la question du passage de relais avec la loi antérieure. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, la question est surprenante. On a passé un moment à identifier l'instant de l'entrée en vigueur de la loi et on cherche... là, à ce stade, à savoir comment, et donc quelque part quand aussi, le passage de relais avec le droit antérieur va s'opérer. À première vue, ça n'a pas beaucoup de sens, et vous êtes sans doute tenté de vous dire, bah, la loi nouvelle, elle entre en vigueur, on applique la loi nouvelle, point barre. Voilà. Et ce qu'on a vu avec les abrogations tacites tout à l'heure, ça va un peu avec. Loi nouvelle, j'applique ma loi nouvelle. Mais on ne peut pas en droit, s'il vous plaît, surtout sur ces questions-là. Pour moi, j'aime pas que vous discutiez entre vous et j'aime pas pour les autres qui se déplacent non plus. Mais là, cette question-là, j'essaye de faire simple, mais si vous ne vous accrochez pas et si vous êtes déjà démotivé, qu'a fait ? Voilà. Vous ne pouvez pas aborder les choses aussi simplement que de vous dire la loi nouvelle entre en vigueur, j'applique ma loi nouvelle et je fais table rase de l'ancienne. Exemple qu'on va retrouver par la suite, mais c'est pour vous donner une des hypothèses où c'est compliqué. Vous allez conclure ce qu'on appelle un contrat à exécution successive. Alors, un contrat à exécution successive, ce n'est pas très compliqué, c'est un contrat qui s'exécute dans le temps. Les contrats à exécution successive, ça s'entend par opposition à ce qu'on appelle les contrats à exécution instantanée. Deux exemples. Un contrat à exécution instantanée, c'est un contrat de vente. Je vous vends mon téléphone, je vous remets le bien, vous me donnez les sous, on n'en parle plus. Exécution instantanée. Voilà. C'est sur un temps donné, les deux parties exécutent leurs obligations et c'est fini. Un contrat à exécution successive, c'est un contrat qui ne s'exécute pas précisément de manière instantanée, mais dans le temps. Exemple, un contrat de bail. Vous êtes peut-être locataire ou vous vivez chez des gens qui sont locataires, peu importe, vous avez conclu un contrat à exécution successive. Vous avez la jouissance du bien, on appelle ça comme ça, donc vous pouvez occuper l'appartement et en contrepartie, tous les mois, vous versez un loyer. C'est un contrat à exécution successive. Vos passes Navigo, c'est des contrats à exécution successive aussi, quand ça marche. Mais c'est une autre problématique. Le contrat à exécution successive, c'est le contrat qui se perd dans le temps. Ok, donc vous avez conclu un bail. Et puis, 6 mois après, donc vous êtes toujours dans les lieux, évidemment, hein, vous avez conclu le bail pour vos études. 6 mois après, il y a une nouvelle loi qui arrive et qui change tout sur les conditions du bail et c'est plus du tout intéressant pour vous. Sauf que si vous aviez su ça au moment où vous concluiez le bail, ben vous n'auriez pas conclu un bail. Et là, du coup, si on fait une application automatique, comme on a dit au début, ben en fait, la loi nouvelle arrive, elle s'applique et elle vire l'ancienne. Si on fait une application comme ça, ça veut dire que vous vous retrouvez coincé dans une relation qui s'inscrit dans la durée, un contrat à exécution successive. Mais on ne vous avait pas donné toutes les cartes à l'origine, parce que si vous aviez su que la nouvelle loi allait fonctionner comme ça, vous ne vous seriez pas engagé dans le contrat. Ça, ça pose un vrai gros problème de sécurité juridique. Autre exemple qui est un peu plus tranché. Vous êtes très amoureux, très amoureuse, et donc vous vous mariez. Et puis 6 mois après le mariage, il y a une loi qui intervient et qui interdit le divorce. Et là, d'un coup, vous vous dites, ah ouais, quand même... Moi, je me suis mariée parce que j'ai 20 ans et que je trouvais ça formidable et qu'on s'entend hyper bien. Mais enfin, je ne suis pas sûre qu'à 50, ce sera toujours la même chose. Là, en fait, je suis rentrée dans une situation juridique où je savais que je pouvais sortir. Parce qu'au moment où je suis entrée, le divorce était licite. Et maintenant que je suis dedans, on me dit qu'en fait, la porte s'est refermée. M'angoisse un peu. C'est pas possible, en fait, de faire une application comme ça des lois. Ça nous amène à des conflits de lois dans le temps. Dans un certain nombre d'hypothèses, on ne pourra pas juste raisonner en se disant bah, « la loi nouvelle arrive, elle chasse la loi antérieure ». Ça va fonctionner comme ça. On va avoir notamment le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, mais on va voir que dans un certain nombre de cas, elle ne fonctionne pas comme ça. La loi ne s'applique pas comme ça. C'est ce qu'on appelle le droit transitoire. Voilà. Le droit transitoire, c'est l'ensemble de règles qui encadrent les conflits de loi dans le temps. Alors, parfois, elle va permettre de régler les problèmes que je vous ai posés. Notamment pour le contrat de bail. On verra tout à l'heure le principe de survie de la loi ancienne. Parfois, au contraire, l'application des règles, elle va importer une application immédiate de la loi nouvelle. Notamment sur la question du mariage et du divorce, dans l'exemple qu'on avait à l'instant. Oui. Le droit transitoire, c'est les conflits de loi dans le temps. Quand on parle de droit transitoire, c'est en gros comment est-ce qu'on organise la bascule entre le droit ancien et le droit nouveau. C'est ça le droit transitoire. Plus généralement, vous trouverez l'expression de conflit de loi dans le temps. Mais vous aurez cette expression-là aussi. Donc, cette étude des conflits de loi dans le temps, elle va s'organiser autour de deux grands principes. Ces deux grands principes connaissent tous les deux des tempéraments, des exceptions. Le premier grand principe, c'est ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Non-rétroactivité de la loi nouvelle. Et le second grand principe, c'est l'application immédiate de la loi nouvelle. Donc, ça veut dire, si on synthétise, que par principe, la loi nouvelle s'applique immédiatement et ne rétroagit pas. Ça, c'est le principe. Et on va voir qu'évidemment, il y a un certain nombre d'exceptions. On commence avec la première hypothèse, qui est donc l'hypothèse, le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. Et donc, je vous dis, c'est un principe, et ce n'est pas un principe absolu. Au contraire, c'est un principe qui connaît un certain nombre de tempéraments. Quand je dis de tempéraments, c'est d'exceptions, hein. Donc, on va évidemment commencer par regarder le principe et on verra les tempéraments ensuite. Un grand A d'abord sur le principe. Le principe, vous le trouvez à l'article 2 du Code civil. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. La rétroactivité, c'est le fait, pardon là encore pour la définition redondante, mais c'est le fait de rétroagir, c'est-à-dire d'agir sur une situation antérieure. La rétroactivité, c'est ça. Donc, le législateur vous dit, la loi ne peut pas agir sur une situation qui lui est antérieure. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, il faut l'entendre comme ça. Heureusement, là, dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure sur le mariage et le divorce, le temps que la loi entre en vigueur, bah, le cas échéant, vous avez la possibilité de divorcer. Admettons que vous divorciez. Non, attendez, ça ne marche pas. On supprime l'exemple précédent. Faites abstraction de l'exemple précédent. Il s'avère que vous êtes déjà divorcé. Ça arrive. Vous vous êtes marié à 18 ans, vous avez divorcé à 19. Et en janvier 2025, intervient une loi qui interdit le divorce. Vous êtes déjà sorti. Si la loi peut être rétroactive, alors on peut vous dire, ah oui, par contre, attention, parce que votre divorce, il y a 6 mois, il n'a aucune valeur légale. Comme on a interdit le divorce et que la loi rétroagit, vous êtes toujours marié. Ça, c'est évidemment absolument impossible. Pour une raison simple, c'est une question de sécurité juridique. Vous imaginez la situation, si on peut venir dire à des gens, alors, sur une situation qui date d'il y a 6 mois, ou d'un an, ou de 5 ans, ou de 20 ans, ah oui, alors par contre, on a changé le cadre légal, donc ce qui était licite au moment où vous l'avez fait, il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est désormais illicite. Donc soit on vous sanctionne, soit on vous remet dans la situation dans laquelle vous étiez avant. C'est absolument impossible pour ce grand principe qui est le principe de sécurité juridique. Heureusement, on ne peut pas exiger des citoyens qu'ils aient respecté une loi qui n'existait pas au moment où ils ont adopté tel ou tel comportement. Vous, quand vous avez divorcé là en septembre, vous vous êtes plié à la loi autorisait le divorce. On ne peut pas venir vous reprocher dans 6 mois de ne pas avoir respecté une loi qui n'existait pas au moment où vous avez divorcé. Ce qui justifie la non-rétroactivité de la loi, c'est ça. Ce principe de non-rétroactivité, il a 2 grandes applications que vous avez au tableau, qui paraissent très techniques, qu'on va schématiser. La première, la loi nouvelle, elle ne peut pas s'appliquer à la constitution ou à l'extinction d'une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Deuxième occurrence, deuxième application du principe, elle ne peut pas non plus s'appliquer aux effets déjà passés d'une situation juridique née avant son entrée en vigueur. Lu comme ça dans les manuels, dit comme ça en cours, incompréhensible, normal. Qu'est-ce que je fais quand je ne comprends pas? Je schématise. Première occurrence, donc le premier, là sur cette slide-là, la première application du principe, la loi nouvelle ne peut s'appliquer à la constitution ou à l'extinction d'une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Eh bien, on va schématiser. La constitution d'une situation juridique, c'est quoi? vous allez réaliser un effet de droit, une situation de droit. Je prendrai les questions après. Il y a trop de mains levées là. Si on s'arrête comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Venez à l'intercours. Vous allez réaliser une situation de droit. C'est l'exemple qu'on vient de donner avec le mariage. Vous vous êtes marié à 18 ans. En 2024. Et puis intervient une loi nouvelle en 2025 qui vous dit pour que le mariage soit valable, il faut que les époux aient 20 ans. Ce que vous n'aviez pas au moment du mariage, ce que vous n'avez toujours pas. Si la loi rétroagit, on va annuler votre mariage. Donc, pour éviter ce genre d'insécurité juridique, on a un principe qui dit quand la situation juridique, donc là en l'espèce le mariage, mais ça peut marcher sur tout, un contrat de vente, peu importe. Quand la situation juridique a été constituée sous l'empire du droit antérieur, qu'elle a été constituée en application du droit antérieur, la loi nouvelle ne s'y applique pas. Voilà. Donc, quand vous avez constitué votre situation juridique du mariage en 2024 en vous mariant à 18 ans, la loi nouvelle qui va entrer en vigueur en 2025 et qui va vous dire les époux doivent avoir 20 ans ne peut pas s'appliquer à cette situation qui a été constituée avant son entrée en vigueur. Le mariage que vous avez conclu dans ces conditions sous l'empire du droit antérieur, il reste valable précisément parce que la loi ne rétroagit pas sur une situation déjà constituée sous l'empire du droit antérieur. Qui est paumé sur cette première occurrence? Pour qui est-ce que ça va? Qui est moyen? Ouais, ok. Je fais la bascule, on voit si c'est mieux. Pareil pour l'extinction. Reprenez la phrase complète. La loi nouvelle ne peut pas s'appliquer à la constitution ou à l'extinction d'une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Vous avez divorcé en 2024. En 2025, la loi interdit le divorce. Si on accepte la rétroactivité de la loi, on va vous dire votre divorce de 2024, il n'est plus valable. Donc on vous remet dans une situation de mariage, on fait comme si vous n'aviez pas divorcé. Heureusement, vous avez déjà éteint votre situation juridique en 2024. L'extinction, elle s'est donc faite sous l'empire de la loi antérieure. Ce que va dire la loi postérieure ensuite ne vous concerne pas. La loi postérieure, elle n'a pas vocation à revenir sur l'antériorité, à revenir sur le passé. Donc ce qui a été réglé sur le passé avec la loi antérieure, c'est réglé. On n'y touche plus. La loi ancienne s'est appliquée, la loi nouvelle n'a pas vocation à rétroagir. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que... Et c'est pour ça que je vous disais que le moment de l'entrée en vigueur, il était capital. Ce qui s'est réglé sous l'empire du droit antérieur avec la loi ancienne, constitution ou extinction de situation, c'est fait. Ça a été fait dans les clous de la loi ancienne. La loi nouvelle n'a pas vocation à revenir dessus. Qui est paumé ou moyen? Pour qui est-ce que ça va? Génial. Oui, souvent le négatif éclaire davantage. On va revenir sur tout ça. Vous allez revoir ça en TD. Si c'est costaud, là, encore une fois, je ne suis pas particulièrement inquiète pour vous. Mais vous allez voir, on va faire d'autres schémas et ça va venir un peu. Donc ça, c'était la première occurrence. Si je reviens sur ma slide précédente, la loi nouvelle ne peut s'appliquer à la constitution ou à l'extinction d'une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Si je décortire ça dans un langage un peu plus clair, ça veut dire que sur ma frise chronologique, j'ai ma situation juridique, quelle qu'elle soit, le contrat conclu, le dommage causé à une personne, l'infraction pénale, peu importe. J'ai ma situation qui a été créée ou qui a disparu, constitution ou extinction, c'est ça, hein, sous l'empire du droit antérieur, avant que la loi nouvelle n'arrive. Ça a été créé ou ça a disparu? Bon. Ça veut dire que quand la loi nouvelle arrive, elle aura vocation à gérer ce qui viendra dans l'avenir, mais elle n'a pas vocation à ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Donc moi, ma situation juridique, elle a été constituée ou éteinte, constitution, extinction, sous l'empire de la loi ancienne, c'est la loi ancienne qui s'applique. Voilà. Deuxième occurrence maintenant, vous aviez vu, Deuxième application du principe, la loi nouvelle ne peut s'appliquer aux effets déjà passés d'une situation juridique née avant son entrée en vigueur. Là, c'est un peu différent. Exemple qui s'est produit pour que vous compreniez davantage. Pendant des années, hein, jusqu'à la moitié du XXe siècle, on refusait que soit payée une pension alimentaire au bénéfice des enfants adultérins. Il y a eu une distinction pendant très longtemps entre ce qu'on appelait les enfants légitimes, les enfants naturels, et parmi les enfants naturels, les enfants adultérins étaient traités encore différemment. Donc les enfants adultérins, c'est les enfants qui sont nés d'une union avec un des deux qui est uni dans un mariage tierce. Vous avez A et B qui sont mariés, A va faire un enfant avec C. Voilà, ça c'est un enfant adultérin. Pendant des années, on a considéré que A, qui était l'homme hein, dans le couple statistiquement, ne devait pas de pension alimentaire assez pour l'enfant qui était né. Voilà. La morale de la société à ce moment-là était dans ce sens-là. Donc on ne devait pas de pension alimentaire. Alors, admettons que cet enfant né d'une relation adultère soit né en 1950. Vous avez en 1955 une loi qui apparaît et qui finalement reconnaît la possibilité pour les enfants nés d'une relation adultère de bénéficier d'une pension alimentaire. Qu'est-ce que je fais pour mon enfant qui est né en 1950? Eh bien, entre 50 et 55, je ne peux pas demander de pension pour le temps écoulé. Pourquoi? Parce que la loi nouvelle ne peut pas s'appliquer aux effets déjà passés d'une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur. Les effets antérieurs à la loi nouvelle restent soumis à la loi ancienne. Tout ce qui s'est passé sur le laps de temps entre la création de la situation juridique, là la naissance de l'enfant adultérin, et l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui autorise la pension pour ces... enfants-là, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc entre 50 et 55, je ne peux pas dire en 56, non mais attendez, moi non seulement je demande une pension à partir de maintenant, on y arrive dans un instant pour cette haute hypothèse-là, mais en plus, j'ai 5 ans d'arriéré. Mon enfant, à moi, il est né en 1950. Cette situation-là, vous ne pourrez pas obtenir l'arriéré de pension, en quelque sorte. Parce que cet arriéré sur 5 ans, cette période de 5 ans, elle reste soumise au droit antérieur. La loi nouvelle ne rétroagit pas sur les effets passés d'une situation antérieure. On verra dans un instant pour les effets futurs. Qui est paumé ou moyen? Pour qui est-ce que ça va? Qui n'a pas répondu? Ok. Ça va s'éclairer, vous allez voir notamment, je spoil un peu, c'est pas grave. Ouais, il y en a beaucoup, je sais. Voilà, on va retrouver nos exemples après, dans le deuxième principe, et ça va vous aider à mieux comprendre. Donc vous inquiétez pas. Je fais les trois tempéraments et on s'arrête et on fera l'effet immédiat de la loi nouvelle ensuite. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous me dites à l'intercours, si je vois que c'est confus pour beaucoup, je reprends. J'ai pas de problème avec ça. Mais accrochez-vous le temps qu'on le fait. Donc, encore une fois, ça, c'est le principe. Le principe, c'est que la loi ne revient pas en arrière. Ce qui a été fait, une situation constituée en arrière, dans le passé, une situation éteinte dans le passé, les effets d'une situation qui se sont déployés dans le passé, tout ça, ça reste sur la loi passée. Voilà. Vous mettez une ligne et tout ce qui s'est opéré dans le passé reste couvert par la loi qui s'appliquait à ce moment-là. Voilà. Parce que la loi nouvelle ne rétroagit pas. Donc vous posez votre loi nouvelle sur une frise chronologique comme on l'a fait là, partout, et à chaque fois, vous vous dites, puisqu'il y a non-rétroactivité, la loi ne revient pas en arrière. Tout ce qui est antérieur à mon entrée en vigueur, ça reste sous l'empire de la loi ancienne. Sauf dans certaines hypothèses. La première hypothèse, donc encore une fois, là on est dans les tempéraments, donc ça veut dire que par exception, la loi nouvelle va s'appliquer à des situations passées. Constitution d'une situation passée, extinction d'une situation passée, effet d'une situation qui se déroule dans le temps. Donc les trois hypothèses qu'on a vues jusque-là. Donc par exception, elle va s'appliquer de manière rétroactive. La première hypothèse, c'est ce qu'on appelle les lois interprétatives. Comme son nom l'indique, la loi interprétative, c'est la loi qui a pour objet d'interpréter, de préciser le sens d'une loi qui préexiste. Vous avez une loi A en 2020, et en fait, on se rend compte à l'application qu'elle n'est pas extrêmement claire. Et donc, vous allez avoir en 2022 une nouvelle loi interprétative qui vient en préciser le sens. C'est son objet unique à la loi interprétative. Elle n'est adoptée, elle n'est votée que pour préciser la loi antérieure. Puisqu'elle est liée absolument à cette loi antérieure, puisqu'elle n'existe que parce que la première existe, on va considérer qu'elle prend corps avec elle, qu'en fait les deux ne font qu'un. Puisqu'elle vient l'interpréter, les deux sont inextricablement liés. Et parce qu'elles sont liées, alors la loi interprétative rétroagit. En fait, si je schématise, la loi interprétative n'est là que pour interpréter la loi première, n'a de raison d'être que parce qu'existe la loi première, au point qu'elles se font avec elle. Et comme elles se font avec elle, elle prend rétroactivement sa date d'entrée en vigueur. On va considérer qu'elles ne font en réalité qu'une seule et même loi, et donc ça permet à la loi interprétative de rétroagir. Alors, en principe, la loi est expressément interprétative. C'est-à-dire que le législateur lui-même vous dit « cette loi-là est interprétative, a pour objet d'interpréter telle autre loi ». Dans ce cas-là, la Cour de cassation vous dit « pas de problème, quand le législateur nous dit ça, c'est qu'il a voulu nous dire que la loi était rétroactive ». Pour la Cour de cassation, quand il est précisé dans la loi que la loi est interprétative, ça revient au même que de préciser sa rétroactivité. Voilà. Pas de souci. La situation est plus compliquée quand il n'y a rien de précisé. La loi est implicitement interprétative. Elle ne le dit pas clairement. Dans ce cas-là, on a tendance aujourd'hui à avoir une approche stricte et à refuser la rétroactivité d'une loi qui n'est que implicitement interprétative. Ça fait beaucoup de mots, je vais le redire. Si la loi interprétative est implicitement interprétative, c'est-à-dire, encore une fois, qu'elle ne vous dit pas noir sur blanc dans un article, « moi, mon objet, c'est d'interpréter telle loi de telle date », à ce moment-là, si le législateur ne dit pas qu'elle est interprétative, donc pour le dire autrement, si elle est implicitement interprétative, le juge, la Cour de casse, là en l'espèce, a tendance maintenant à considérer que dans ce cas-là, elle n'est pas rétroactive. Retenez, si c'est plus simple pour vous, que pour la Cour de cassation, il y a une tendance à considérer que n'est rétroactive que la loi expressément interprétative. Parce que dans ce cas-là, pour le juge, ça veut dire que le législateur a voulu dire « cette loi-là, elle est rétroactive ». En disant qu'elle est interprétative, c'est comme s'il disait qu'elle était rétroactive. Et dans ce cas-là, la Cour de cassation valide. Quand c'est implicite, on ne prend pas de risque et on ne fait pas rétroagir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sont rétroactives les lois expressément interprétatives. Ça, c'est la première hypothèse. Seconde hypothèse, la loi rétroactive. Alors, pour le coup, c'est assez simple, hein. Le législateur va vous dire tel quel, cette loi-là, elle rétroagit à telle date. 2 ans, 5 ans, etc. Ça arrive notamment pour les lois de validation. Alors, les lois de validation, c'est des lois un peu particulières qui viennent en quelque sorte confirmer une solution jurisprudentielle, donc rendue par le juge, par la jurisprudence. Par exemple, vous passez un acte avec une personne et cet acte, il est considéré comme nul par la loi, donc il est privé d'effet. Sauf que la jurisprudence, et on retrouve bien là l'idée que c'est une source du droit, la jurisprudence, elle admet la validité de l'acte. Voilà. Elle considère que l'acte, alors même que légalement il n'est pas valable et il a vocation à être annulé, elle le valide. Parfois, ça appelle le législateur à revoir sa copie. Il prend connaissance de la jurisprudence qui valide les actes et il se dit bah, finalement, le juge n'est pas si absurde que ça dans sa réflexion-là. C'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Ces actes-là, ils ont peut-être vocation à être reconnus comme valables, effectivement. Je ne suis pas en désaccord total avec le juge et j'aurais plutôt tendance à suivre. Vous prenez une loi de validation qui va venir valider les actes qui antérieurement étaient nuls. Voilà. Donc, c'est une loi rétroactive, ce sera mentionné dedans, ce caractère rétroactif, explicitement, et ça aura vocation à dire, bah, effectivement, le courant jurisprudentiel qui validait les actes m'a convaincu, donc ces actes-là qui antérieurement n'étaient pas valables, je les valide rétroactivement. Ça peut vous sembler bizarre. Ça peut vous sembler bizarre que le législateur dise dans l'article 2 du Code civil... La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif, et que dans le même temps, ici, je vous dis, bah, y a des lois rétroactives. Sauf que si vous avez pigé la hiérarchie des normes, il n'y a pas de problème. L'article 2 du Code civil, c'est une loi, c'est une règle qui s'inscrit dans le bloc de l'égalité. Rien dans les blocs supérieurs, sauf en droit pénal, et on le verra dans un instant, rien n'impose la non-rétroactivité dans les blocs supérieurs. Mettez-vous un encart, encore une fois, sauf en droit pénal, on en reparle dans un instant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, que dans cet article 2, le législateur s'auto-impose la non-rétroactivité. L'interdiction de la rétroactivité de la loi, elle vient du législateur. Bon, logique toute bête, ce que le législateur a fait, il peut le défaire. Et donc, quand le législateur pose la règle de « la loi n'est pas rétroactive », s'il n'y a rien dans les autres blocs du dessus qui confirme cette interdiction de la rétroactivité de la loi, alors rien n'empêche le législateur de dire bah, « la loi n'est pas rétroactive, sauf quand je décide qu'elle l'est ». C'est des règles sur le même niveau d'hiérarchie, en termes de hiérarchie des normes, et donc il n'y a pas de problème. Sauf en droit pénal, et ça nous amène à la troisième hypothèse. Il y a un principe de rétroactivité des lois pénales plus douces. À l'origine, ce principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, il est d'origine jurisprudentielle. C'est le juge pénal, qui a le premier considéré que la loi pénale nouvelle, elle devait rétroagir si elle était plus douce pour l'auteur de l'infraction. Et puis ça a été confirmé par le législateur, cette règle-là, elle figure désormais à l'article 112-1 du Code pénal. Et par une décision de 1981, le Conseil constitutionnel a donné valeur constitutionnelle à cette règle. La loi pénale plus douce doit rétroagir. Je vous rappelle qu'en 1981, on est sur l'année qui a interdit la peine de mort. La loi qui interdit la peine de mort est par définition une loi plus douce pour les auteurs d'infractions qui étaient concernés par cette sanction-là. Si vous êtes condamné à la peine de mort, la loi qui vient interdire la peine de mort en France est plus douce pour vous, sans aucune incertitude. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une idée d'humanité. On se dit que si le législateur a assoupli sa position, par définition, puisque la loi nouvelle est plus douce, donc moins sévère que la loi ancienne, c'est parce qu'il a considéré que sa solution ancienne était trop dure, trop sévère. A priori, c'est-à-dire que si le législateur adopte une loi pénale qui est plus douce, qui est moins sévère, c'est que quelque part, il considère que la sanction qu'on prononçait jusque-là était trop sévère. Sinon, il n'adopte pas de règle pénale plus douce. Donc, on se dit que l'humanité, dans ce cas-là, commande d'en faire bénéficier rétroactivement les individus. Je ne rentre pas dans le détail, c'est les juridictions pénales, vous avez le rôle notamment du juge de l'application des peines, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais il faut retenir ça. Par ailleurs, ce principe-là est le principe d'un autre pendant qu'on a évoqué plus tôt. et qui est le principe cette fois-ci de non-rétroactivité de la loi pénale. Alors là, vous pouvez être complètement paumé. Je viens de vous dire, il y a une exception qui est la rétroactivité de la loi pénale plus douce, et je vous dis maintenant, ce principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, c'est le pendant, l'autre face du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. En fait, il n'y a pas d'incohérence entre les deux. Armez-vous de patience, ça va aller. D'un côté, on vous dit que le principe constitutionnel, c'est celui de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Plus douce, j'insiste là-dessus, rétroactivité de la loi pénale plus douce. Et de l'autre côté, je vous dis par contre, principe également à valeur constitutionnelle, ça a été confirmé par le Conseil constitutionnel dans le même temps, principe à valeur constitutionnelle selon lequel non rétroactivité de la loi pénale. En fait, ces deux principes, ils se conjuguent parfaitement bien. Le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui a donc valeur constitutionnelle, il existe parce que le droit et les libertés fondamentales de l'individu le commandent. Voilà. Il faut que je sois au courant. On ne peut pas sanctionner par une peine qui n'était pas prévue au jour de la commission de l'infraction. C'est simple comme bonjour. Je tranche extrêmement fort mes exemples, évidemment. Mais c'est simplement pour vous donner une idée. Je ne filme pas, il n'y a rien. C'est juste un enregistrement audio. Qui a déjà fraudé dans les transports? Je ne sais plus à combien est l'amende. C'est 35 euros, je crois. Ben, je ne fraude pas, donc je ne connais pas. Bon, c'est plus. OK. Et puis là, le nouveau gouvernement adopte une loi aujourd'hui qui dit que la sanction pour avoir fraudé dans le RERB, c'est 20 000 euros d'amende et 15 ans de prison. C'est une loi pénale plus sévère que la loi actuelle. On ne peut pas venir vous chercher chez vous à 5 heures du matin pour vous emmener en prison. Parce que vous avez commis votre infraction sous l'empire du droit en derrière qui disait donc 100, 135, j'en sais rien, mais qui était de toute façon pas 15 ans de prison et 20 000 euros d'amende. Dans ce cas-là, vous restez sous l'empire du droit antérieur. Et aucune loi ne peut en décider autrement parce que c'est un principe à valeur constitutionnelle. La loi pénale ne rétroagit pas, sauf si elle est plus douce. Parce que là aussi, les libertés individuelles de l'individu le commandent. Donc, vous avez une loi pénale nouvelle, double question. Elle est plus douce, ou elle est plus sévère? Merci infiniment. Non, mais vous embêtez pas, vous rigolez. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Les fiches de TD, uniquement les étudiants qui ont déjà eu leur TD et qui les ont pas récupérées du coup, à la pause. Pas ceux qui ont leur TD dans la semaine qui vient. Vous les aurez. Il y a juste eu un cafouillage avec le groupe de M. Boile, donc les étudiants de M. Boile qui n'ont pas eu leur fiche, vous les récupérez à la pause. Donc, je vous dis, pour la loi pénale, merci encore, hein. Pour la loi pénale, alternative, elle est plus douce ou elle est plus sévère? Et dans les deux cas, la réponse est la valeur constitutionnelle. Elle est plus sévère, je ne rétroagis pas. Elle est plus douce, je rétroagis. Voilà. Donc, je vous dis, il n'y a pas du tout de contradiction, contrairement à ce qui peut sembler l'être au premier abord entre les deux principes. La loi pénale ne rétroagit jamais, sauf si elle est plus douce. Voilà. Et ces deux règles-là qui se combinent, elles ont valeur constitutionnelle. Toutes les deux, ça veut dire qu'aucune loi ne peut décider le contraire parce que vous maîtrisez la hiérarchie des normes et que vous savez qu'une loi ne peut pas contredire la Constitution, le bloc de constitutionnalité. Qui est paumé? Pour qui est-ce que ça va? Bon, allez, soufflez 10 minutes et on reprend. Juste, Monsieur Boile, je vous fais confiance, soyez sympa pour les copains qui ne les ont pas eus, hein.